Voici ce qu'en dit la presse. Le 5 juillet 2011, à La Bège, en banlieue toulousaine, une dizaine de casseurs, très organisés, vêtus de noir, cagoulés et gantés, ont fait irruption dans le bâtiment de la direction interrégionale de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Ils ont saccagé des salles et tagué des slogans sur les murs. Des seaux remplis d'excréments humains ont été déversés sur les ordinateurs. Cette action a eu lieu 2 mois après une révolte dans l'EPM, ou établissement pénitentiaire pour mineurs, ou encore prison pour mômes, de Lavaur. Les inscriptions ainsi que des tracts laissés sur place montraient une solidarité avec les enfants enfermés. Le 15 novembre dernier, 6 personnes, âgées de 21 à 30 ans, ont été interpellées dans des squats et appartements de Toulouse. 5 ont été mises en examen et 4 d'entre elles ont été placées en détention pour des faits de dégradation et de violence. Le parquet s'est refusé à préciser les conditions dans lesquelles les enquêteurs sont remontés jusqu'aux suspects. Selon une source proche de l'enquête, ces militants d'ultra-gauche, chômeurs ou étudiants ont agi par conviction, nous précise le Figaro du 17 novembre.
Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants, et laisse-moi rigoler, ou ceux qui sait tout, et c'est surtout pour détruire les gamins, ou l'espoir des parents, connard, personne ne peut...
Diana, Pénélope, vous êtes membre du comité de soutien aux inculpés du 15 novembre à Toulouse. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire ce qui s'est passé le 15 novembre à Toulouse?
Alors, le 15 novembre à Toulouse... à partir de 6h du matin, on a appris que dans plusieurs appartements, maisons, lieux occupés, lieux loués dans la ville, à plein d'endroits différents, il y avait des gendarmes qui débarquaient pour arrêter des gens, perquisitionner les lieux, aussi arrêter des gens, les amener à ce qui était censé être leur domicile pour perquisitionner à un autre endroit, ce qui fait qu'au total, dans la matinée, il y a eu 6 endroits perquisitionnés. Et 6 personnes arrêtées, ouais, c'est ça. Et aussi un endroit qui a été bon, ça, perquisitionné le lendemain, qui était un autre endroit qui concernait une personne inculpée. Donc, ouais, c'est ça qui se passe le 15 novembre. Ça fait une centaine de gendarmes, au moins, on pense, mobilisés sur la ville pour défoncer des portes d'entrée de maison. Du coup, ce qu'ils ont fait concrètement, c'est que non seulement ils ont arrêté des personnes apparemment qu'ils étaient venus chercher en les ciblant, ils ont profité pour contrôler les identités de tout le monde, contrôler l'identité d'une famille étrangère et l'arrêter, alors même qu'en plus elle a été relâchée parce qu'elle était en cours de régularisation. Et ça, avec tout ce que ça a de violence physique, matérielle, psy et tout.
Ils faisaient ça pourquoi? Ils cherchaient quoi?
Ben, ils cherchaient des gens qu'ils accusent d'avoir participé à une action qui a eu lieu dans les locaux de la PJJ de La Bège en juillet, où il y aurait eu, je crois, une quinzaine de personnes qui seraient rentrées donc dans ces locaux, auraient tagué des slogans contre les EPM et contre l'action de la PJJ dans les EPM, donc les prisons pour mineurs, déversé un seau de caca. Et une légère bousculade, de ce qu'on en sait, en tout cas.
Et des tracts qui auraient été laissés aussi.
Voilà. Et des tracts, du coup, qui, visiblement, parlaient de l'action de la PJJ.
Alors, on va revenir plus tard à cette action et aux raisons de cette action. Mais dans un premier temps, là, les gens qui ont été arrêtés, ils sont devenus quoi, après?
Eh ben, il y en a 4 qui sont placés en détention préventive. Une personne qui est en contrôle judiciaire... et une autre personne qui est placée comme témoin assisté. En gros, témoin assisté, c'est on n'a pas assez de charges contre toi pour te mettre en examen, mais quand même, tu restes à disposition du juge d'instruction. Donc le mot assisté, c'est aussi parce que du coup, tu peux quand même te faire assister d'un avocat et avoir accès à une partie du dossier de l'instruction.
Et du coup, ils sont inculpés de... je pense, tous les mêmes chefs d'inculpation. Le premier, c'est participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Le deuxième, c'est dégradation de biens. Et le troisième, c'est violence en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité. Enfin,
d'ITT.
D'ITT. Et voilà, ça, c'est les chefs d'inculpation qu'ils ont tous sur le dos. Depuis, notamment, il y en a 4 qui sont en prison... à Seis, dont on sait aussi que les conditions, comme la plupart des détenus, c'est que dans les premiers temps, la plupart, ils n'ont pas eu accès aux vêtements qui leur étaient fournis, aux mandats qui leur étaient envoyés, etc. Enfin, évidemment, la communication, les demandes de parloir qui n'aboutissent pas pour l'instant, donc en plus avec un maintien bah, de leur isolement encore plus fort, quoi.
C'est un peu hard, non, de mettre des gens en détention préventive pour du coup apparemment quelques tags, même à l'intérieur de locaux et un peu de caca renversé.
Ben ouais, c'est hard et en même temps j'ai l'impression que ça s'inscrit vraiment dans une logique en ce moment de répression hyper forte de quelles que soient un peu les actions menées, dès qu'elles sortent un peu du cadre de la manifestation déclarée en préfecture, avec une petite sono et un truc un peu comme ça. Enfin, à Toulouse, en tout cas, il y a plusieurs exemples ces derniers temps, comme on peut parler des étudiants qui ont été inculpés, donc des étudiants de la fac du Mirail, qui ont été condamnés l'année dernière à des lourdes peines de sursis et d'amende, parce que ils étaient accusés lors d'une occupation de la maison de la recherche pendant un mouvement étudiant d'avoir volé des petits fours.
Il y a aussi...
Et des dégradations, je crois. Mais enfin, autant dire, enfin, pas grand-chose.
Ouais. Comme l'année dernière pendant le mouvement des retraites, où deux personnes, elles se sont faites interpeller, pareil, à leur domicile, super violemment et tout, et condamnées à des peines de sursis pour un tag. Du coup, il y a vraiment cette question-là de comment toutes les actions, elles sont tout de suite qualifiées de violentes ou de je sais pas quoi, alors que la question en plus là, c'est vraiment des graffitis, des prises de parole qui sortent du commun, des lancers de tracts, voilà quoi, des modes d'action qui, quand on en parle aux gens là, ces derniers temps, rappellent à tout le monde. J'ai l'impression de ah ça s'est passé dans telle lutte de chômeurs, ah ça s'est passé dans telle grève. Et que c'est toutes les histoires de lutte qui portent ces modes d'action-là, et puis qu'aujourd'hui, pour ces actions-là, on part en préventif, quoi.
Pour revenir à cette action précisément, on va remonter au mois de mai dernier, au mois de mai 2011, où il y a eu une révolte à l'EPM, donc la prison pour mineurs à Lavaur, à côté de Toulouse.
Ben, du coup, il y a eu cette mutinerie. Un peu les seules infos qui passaient, c'était par la presse, et notamment par les communiqués des éduques PJJ qui bossent du coup à l'intérieur, qui suite à cette mutinerie se sont placés en grève immédiatement, ont utilisé leur droit de retrait pour laisser toute la place aux ERIS. Du coup les ERIS, ce sont les équipes régionales d'intervention spéciales, qui sont des spécialistes pour venir mater les révoltes en prison. Et du coup dans leur communiqué, les éduques PJJ parlaient d'enfants irrécupérables, qui n'avaient pas leur place dans ces lieux soi-disant éducatifs, parce qu'ils étaient en plus aux côtés d'enfants réinsérables, et donc ils empêchaient la réinsertion de ces enfants-là. Ils parlaient beaucoup aussi de leurs conditions de travail qui étaient tellement difficiles, qu'ils demandaient plus de moyens pour leur sécurité.
Qu'ils demandaient une coordination aussi entre la formation d'un personnel censé assurer la protection de la jeunesse et une formation conjointe avec le personnel de l'AP, donc les matons, eux chargés du maintien de l'ordre et de la répression, de faire converger un peu ces deux métiers, avec tous les enjeux de pouvoir qu'il y avait aussi entre les deux corporations qui jouaient à ce moment-là et qui s'est vraiment joué, on avait l'impression, de ce qui transparaît, c'est de l'extérieur, sur le dos justement des mineurs enfermés. Il y avait une espèce de surenchère pour... et en faire des monstres irrécupérables et justifier que tout le monde va y tirer la couverture de plus de moyens, plus de reconnaissance, plus de primes de risque ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment cette dynamique-là, à cette époque-là. Et avec, du coup, ce qu'on constate et ce qui était visible, c'était l'absence de communication, l'impossibilité d'avoir des informations. Où finalement, ça donnait l'impression que les établissements pour mineurs, ils sont encore plus enfermants et isolants que n'importe quelle maison d'arrêt pour adultes.
C'est quand même un peu fou que des éduques PJJ parlent d'enfants irrécupérables. C'est que du coup, s'ils sont irrécupérables quand ils sont déjà en prison, leur place, c'est quoi? C'est les fours?
Bah, on se demande, mais en gros, eux, ce qu'ils disent, c'est que non. Dans les autres prisons, il y a des prisons pour adultes, il y a des quartiers pour mineurs. Et du coup, en gros, ils disent que leur place, elle est plutôt là, puisque eux, ça sert à rien d'avoir une action qu'ils appellent, eux, éducative. Je mets plein de guillemets à ce mot-là. Et que juste, voilà, on devrait juste les envoyer dans des tôles qu'ils y pourrissent et puis et qu'il n'y a rien à en faire.
La PJJ intervient pas dans les quartiers pour mineurs des prisons?
Non. Non. C'est un peu la particularité des prisons pour mineurs, c'est que c'est une action conjointe et de l'administration pénitentiaire et de la PJJ.
avec aussi l'intervention de certains enseignants,
ouais.
D'une certaine catégorie de personnel qui justifie des spécificités de la PJJ, qui permettent, j'imagine, de faire entrer la législation française dans un cadre qui se voudrait pas que répressif en matière de préoccupations autour de la délinquance des mineurs, etc. quoi. Donc vraiment comme un espèce de vernis qu'on met pour justifier l'enfermement des mineurs. Et où quand même, comme à chaque fois en plus, ça a été ça, j'ai l'impression, l'histoire de la construction des EPM, c'était de dire, il y a des centres éducatifs fermés, renforcés, c'est pas suffisant, hop, on fait les EPM. Au bout de quelques années, les EPM, ils ont 6 ans, on va dire, ah ben c'est encore pas suffisant, il faut augmenter, enfin il faut passer la barre plus haut, et aujourd'hui ils parlent d'encadrement militaire.
Les EPM, ils ont même pas 6 ans, ils en ont 4.
Mmh. Oui, c'est le projet, enfin c'est en 2006 qu'ils ont été votés, voilà.
Et quand même depuis la construction des EPM, c'est des cocottes minutes. J'ai pas les chiffres là, mais il y a eu plusieurs tentatives de suicide, d'évasion.
Le premier EPM qui a ouvert, c'était en juin 2007 à Mézieux, à côté de Lyon. Mmh. Et il y a eu un premier suicide dans les mois qui ont suivi. Il y a eu une première révolte dans les 15 jours qui ont suivi. Il y a cette mutinerie, il y a cette réaction de la PJJ, et là, des gens s'organisent un peu en solidarité avec les gamins qui sont à l'intérieur.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi, ça se passe ouais. Comment?
Bah, l'idée, un peu, quand on se dit à ce moment-là, c'est, ok, il y a plusieurs un peu objectifs. Déjà, le truc de, on a zéro info, les seules infos qu'on a, c'est par la presse et par la PJJ, et du coup, autant dire qu'on n'a pas tellement confiance en ce qu'ils disent. Du coup, on va essayer d'aller à la pêche aux infos. Du coup, là, il y a des personnes qui se pointent au parloir pour pouvoir discuter avec les familles, pour essayer d'aller glaner de l'info, quoi. Là, on voit bien que ça le fait pas trop à la paix, hein, puisque très vite, ils appellent des gendarmes, qui contrôlent systématiquement, qui plus ça va, plus nous repoussent plus loin de l'EPM, et autant dire que c'est hyper compliqué de rencontrer les familles, déjà que le contexte n'est pas évident. Là, c'est...
qui mettent également la pression aux familles pour qu'ils parlent pas à des gens qui, quand ils sortent du parloir, donc avec le danger qu'il pourrait y avoir pour les familles de se faire refuser des parloirs, etc., quand ils viennent en visite. Ça montre aussi vraiment cette histoire de comment, quand c'est des mineurs qui sont à l'intérieur, il y a quelque part la responsabilité des proches et des parents qui est directement mise en jeu pour que eux aussi finalement on puisse les infantiliser ou leur mettre la pression ou les culpabiliser assez pour les menacer de trucs si jamais ils se tiennent pas droit vis-à-vis de la paix, quoi, puisque c'est leur enfant qui est là-dedans, finalement ils y sont peut-être pas pour rien. Ça paraissait assez fort aussi.
Vous avez quand même réussi à rencontrer des familles?
Ouais, il y a eu des rencontres avec des familles, mais qui sont devenues de plus en plus compliquées, qui justement du coup permettaient de savoir un petit peu plus, ne serait-ce que quelles étaient les conditions en temps normal de la détention à l'EPM, et plus particulièrement ce qui s'était passé, notamment suite à la mutinerie, qu'ils avaient été finalement tous mis à l'isolement dans leur chambre-cellule. Ouais, l'information qui venait des familles, c'était vraiment autour de les conditions dans lesquelles ils vivaient après cette mutinerie-là, là, qui avait forcément, enfin, sur lesquelles, collectivement, ils étaient tous hyper réprimés à l'intérieur. Et puis, sur aussi cette info que c'était plutôt suite à une demande de transfert qui avait été refusée et à des demandes en plus qui restaient dans le cadre de ce qu'on est censé pouvoir obtenir dans le cadre de la détention, qui était systématiquement refusée à certains détenus, qu'il y avait des détenus qui avaient du coup choisi d'autres modes de se manifester à l'intérieur. Donc là, ça coupe un peu avec le discours irrécupérable, sauvageon, etc., que tenait le maire de Lavaure, la PJJ, à ce moment-là, quoi.
Juste pour citer le maire de Lavaure, parce que j'ai trouvé cette phrase vraiment horrible, il a dit, en parlant de ces gamins, que c'était comme des chevaux sauvages à qui on n'avait jamais réussi à mettre une selle. Et du coup, l'autre idée, justement, aussi de ce collectif, c'était d'amener une autre parole que hyper dénigrante de ces gosses à l'intérieur et... amener un message de solidarité, essayer de amener un message de solidarité à l'intérieur, ce qui n'a pas été trop possible, et aussi à l'extérieur, amener un autre discours que celui-là.
Ce collectif, il est devenu quelque chose, il existe encore, il a...
Non, ce collectif, je pense qu'il justement, il a trouvé vachement ses limites dans l'impossibilité de faire du lien en fait avec l'intérieur. Et après la question de qui à mon avis est plus générale pour toutes les personnes qui depuis longtemps là se sont posées la lutte autour des prisons, de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait quand on sait si peu de choses, etc. Mais par ailleurs, il a donné des gens qui d'un côté ont fait des émissions de radio, ont écrit des choses, sont renseignés sur ces histoires-là. Mais voilà, quelque chose de plus, un discours de l'extérieur sur l'enfermement des mineurs, quoi. Mais vraiment, enfin, le gros point, ça a été aller à deux personnes tranquillement à l'heure des parloirs, à l'heure de la fin des parloirs, pour voir des familles et demander comment ça va et s'il y a besoin de choses ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elles auraient envie de communiquer d'une autre manière? Ça a été vraiment rendu impossible par la gendarmerie là-bas, quoi. Et ça a été vraiment ce qui aussi a précipité la fin de cette initiative-là, quoi. Par ailleurs, plus tard au cours de l'été, on apprend, notamment par la Dépêche, là, qui en avait fait assez ses gros titres, il me semble, qu'il y a une action qui est faite à la PJJ, au local de la PJJ qui situe à La Bêche, donc aux alentours de Toulouse, pour dénoncer les pratiques de la PJJ autour de l'enfermement des mineurs, son action en particulier dans les EPM et à celui de l'Avor. Donc comme ça a été dit, tractage, un seau de caca, je sais plus qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est une action qui est très très vite décrite comme, je sais pas moi, commando ultra-violent, enfin quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire et tout ça, qui est vraiment... on voit aussi comment la presse, en refaisant la recherche des articles sortis à l'époque et tout ça, au moment des arrestations de novembre, comment la presse a fait ses choux gras de parler de mouvance ou de jeunes super énervés, violents, etc. Pour construire une figure un peu comme ça, politique, hyper à part, quoi. Et puis la fois où on entend reparler de cette action, c'est le jour où finalement ils viennent arrêter plein de gens dans leur lit pour les accuser de ce qui s'est passé ce jour-là, quoi.
Avec pareil dans la presse, du coup, ouais. À nouveau un truc, ils parlent de casseurs, de mouvance ultra-gauche, je sais pas quoi. Enfin voilà, tout leur petit délire.
Ça, je pense, ça concerne pas que cette histoire-là, mais comment de tout, à chaque fois, là, dans les histoires qu'on a racontées de répression, le discours policier ou moi qui vient du procureur, enfin ou qui vient directement du ministère de l'Intérieur, ça va être de construire des espèces de trucs que maintenant ils appellent mouvance, milieu, etc., où on confond affinité personnelle, lutte politique, espace de vie. Les étudiants de la fac sont des étudiants dans tel moule qui ont tel mode d'action qui est pas le bon, les mauvais syndicalistes qui sortent des appels nationaux, les personnes dont justement peut-être où on fabrique une nouvelle identité politique de la mouvance anarchiste à Toulouse, etc. Donc vraiment comment on colle des étiquettes pour donner une cohérence, pour justifier qu'on arrête ces personnes-là, quoi. Leur démarche le jour où ils arrêtent les personnes, et ce sur quoi ils s'appuient, c'est sur le fait que ces personnes-là se connaissent, elles ont des connivences personnelles, et que ça, en soi, c'est soupçonnable, et c'est louche, parce que c'est pas comme ça qu'on vit, quoi. Enfin...
Vous savez un peu le genre de choses qu'ils ont cherché et qu'ils ont embarqué pendant les perquises ?
Ouais, le collectif, là, ça a permis de recenser un peu qu'est-ce qui s'était passé à tous ces endroits-là.
Évidemment, ordinateur, téléphone portable... affiches, toutes les affiches en lien avec des luttes anticarcérales ou contre la répression, ce genre de trucs, des tracts, des brochures, des bouquins.
Tout ce qui ressemblait à une image de personnes qui s'intéressent à la politique, quoi. C'est-à-dire que les affiches, qu'elles aient 5 ans ou 6 mois, peu importe, ça, c'était comme vraiment fabriquer un portrait idéologique des personnes qui avaient été visitées chez elles. Et par ailleurs, le recensement un peu de qu'est-ce qu'ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils ont pris, ça montre aussi le fantasme, alors réel ou qu'ils voulaient fabriquer, de qui sont ces gens qu'on arrête. Parce que en plus de tous ces éléments-là, là, qui construiraient une identité politique figée, ils ont été jusqu'à fouiller dans les caisses à outils pour prendre les masques contre la poussière, là, qu'on utilise quand on bricole. Des trucs inutilisés au milieu d'une caisse à outils que... qu'on met à côté d'une brochure et d'une affiche, et puis qui construisent une figure encore plus violente ou terrorisante. Après, ils ont pris des affiches humoristiques ou des espèces de messages que se laissent des gens, et qui du coup avaient des tons de second degré et tout ça, que je pense qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils les ont pris pour des espèces de codes bizarres ou secrets, quoi. Enfin, pour le coup, au milieu de tout ce qu'ils ont pris, il y a des choses, c'est hilarant aussi, quoi. Mmh.
Des vêtements hyper classe, mais qui sont noirs. Mais pourtant, des trucs hyper classe, quoi. Mais non, c'est noir, du coup.
Ces gens qui sont en prison, donc, rappelons-le encore une fois, pour trois tags et deux sauts de caca, ils sont donc en préventive, en attente d'un jugement qui va venir quand?
Ben, on peut pas trop dater, parce que du coup, l'instruction est toujours en cours. Et du coup, en gros, il faut compter au moins un an, selon les avocats, pour une instruction de ce type-là. Du coup, on espère bien qu'ils vont sortir bien avant leur procès, hein, évidemment.
Parce que, techniquement, ça se passe comment, ça?
Ouais, normalement, c'est... en gros, la détention préventive, c'est 4 mois, mais renouvelable.
Quand les gens sont mis en détention préventive, c'est-à-dire sans aucun jugement, ils peuvent y rester jusqu'à la date de leur jugement, sauf sur demande des avocats qui ont différents recours pour demander leur libération, en amenant des éléments nouveaux. Par contre, parmi ces recours, à part l'appel qui peut être fait au tout début, c'est juste des demandes de remise en liberté qui sont systématiquement révisées par le même juge des libertés. L'idée autour de ce qui s'est passé, c'est d'en parler au maximum, notamment localement et dans la ville de Toulouse, quoi, que cette histoire elle soit pas tue, elle soit pas cachée. Que bah justement, parmi tout ce qui s'est passé ces dernières années à Toulouse, là, c'est un pas de plus qu'ils font sur la répression et tenter de terroriser un petit peu tout le monde qui essaie de faire des choses collectivement et publiquement.
La liberté pour tous, l'égalité pour tous, fraternité pour tous, solidarité pour tous et respect pour tous.
Solidarité avec les inculpés de Toulouse. Libération immédiate, arrêt des poursuites. Le 5 juillet dernier, une dizaine de personnes ont pénétré dans les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse, à Labège, pour manifester contre l'incarcération des mineurs. 4 mois plus tard, le 15 novembre, une centaine de gendarmes ont opéré à Toulouse des perquisitions et procédé à une dizaine d'interpellations dans 7 lieux d'habitation.
6 personnes sont placées en garde à vue, et 4 d'entre elles sont depuis en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seyss. Une 5e est sous contrôle judiciaire et la 6e gardée sous le coude par la justice en tant que témoin assisté.
Que ces personnes soient impliquées ou non dans cette action n'a pas d'importance, tant il est juste d'avoir exprimé sa solidarité avec celles et ceux qui subissent la répression de manière brutale. Ici, les jeunes prisonniers de Lavor qui se sont mutinés en mai 2011. Quand l'État enferme pour quelques graffitis, il tente de terroriser ses détracteurs et toutes celles et ceux qui se risquerait à quelques actions directes revendicatives.
L'époque résonne du bruit de bottes. Omniprésence de flics et de militaires sur la voie publique, multiplication des fichiers, délation institutionnelle, interdiction, amende, en tout genre. La pression policière s'accentue sans cesse sur la population. Contrôle, surveillance, contrainte sont le lot quotidien de tout un chacun, particulièrement des plus pauvres.
Nous ne voulons pas de ce monde qui nous contrôle et nous emmure. Leurs matraques ne nous feront pas taire, ni marcher d'un seul pas. Une semaine de mobilisation s'organise en solidarité avec les inculpés à partir du 10 décembre.
Et samedi 17 décembre, descendons en nombre dans la rue, rendez-vous à Jean Jaurès à 14h.
Là, au cours de ce petit entretien, vous vous êtes pas prononcé beaucoup sur le fait que de savoir s'ils sont innocents ou ce qu'on leur reproche.
Ce qui est en jeu, je pense que c'est pas la question de savoir s'ils sont coupables ou innocents, c'est pas la question de savoir sur quels éléments juridiques et tout ça va se construire un dossier qui est forcément à charge contre eux, quoi. Mais de savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on veut porter un discours, notamment entre autres sur l'enfermement, de justement se retrouver enfermé directement pour qu'il ne se passe rien autour de ces questions-là, et que finalement l'enjeu et l'intérêt, c'est pas forcément de les défendre plus parce qu'ils sont coupables ou parce qu'ils sont innocents, mais n'importe qui à qui ça arrive, une histoire comme ça, il y a besoin de monde et de soutien autour, quoi.
Et maintenant, à vos stylos.
pour envoyer des thunes, c'est à Canal Sud, la radio Canal Sud à Toulouse. Donc Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Donc je répète, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Et autrement, il existe un blog de textes, infos et contacts qui s'appelle pourlaliberté.noblogs.org. Je répète encore, pourlaliberté.noblogs.org.